Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'actualité de ce début d'année a été accaparée par la chute du 17e gouvernement et la mise en place du 18e qui est toujours en cours. Mais aujourd'hui, la rédaction de Radio Rythme Bleu vous propose de revenir sur les temps forts de l'année 2024. Année intense et difficile, largement dominée par les émeutes et l'insurrection du 13 mai. Nous allons revenir en deux temps sur cette année passée. D'abord sur la partie politique, ce sera avec Elisabeth Noir, juste après ce journal. Vous retrouverez donc la première partie de cette rétrospective concernant la Nouvelle-Calédonie. Sur la partie événements, rendez-vous ce soir à 17h45 à la fin du journal avec la rétrospective préparée par Nicolas Legrand. Elles seront ensuite disponibles en réécoute sur notre site internet. La séance ce matin au Congrès a donc tourné court alors que la réforme de la TGC, la taxe générale sur la consommation, devait être examinée ce matin. Elle a finalement été reportée, Léana Colombo.
Oui, ce sont trois projets de loi du pays qui devaient être examinés par les élus du Congrès ce matin, dont cette fameuse réforme de la TGC qui avait déjà été ajournée en fin d'année dernière. Cet examen de loi est une des conditions posées par l'État pour bénéficier des 27 milliards d'aides. Mais pour Virginie Rufnac, chef du groupe Rassemblement au Congrès, les conditions n'étaient tout simplement pas réunies aujourd'hui pour examiner ce texte. Elle en a donc demandé le report à la semaine prochaine.
Le problème ce matin, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement, puisque depuis la chute, il n'y a pas de gouvernement en l'État, en exercice en tout cas. Hein, vous le savez, il y a eu un président, mais pas de vice-président. Et donc, tant que le gouvernement n'est pas en exercice, bah, du coup, il n'est pas au Congrès. Alors, c'est un texte du gouvernement. Donc, c'est compliqué d'examiner un texte du gouvernement sans le gouvernement. Ce n'est pas vraiment prévu par le fonctionnement de notre institution. Et c'est bien la raison. En plus, il y avait un rapporteur spécial qui n'était pas présent non plus. Et donc, dans ses conséquences, les conditions, elles n'étaient pas réunies. On ne peut pas examiner un texte du gouvernement sans le gouvernement. Et donc, on m'a proposé que dès que le gouvernement sera de plein exercice à compter de jeudi prochain, eh bien, on puisse avoir la séance dans 6 ou 7 jours, effectivement, pour examiner ce texte avec la présence du gouvernement qui le porte.
Si les groupes Unipalika et Intergroupe Loyaliste au Congrès étaient également favorables à ce report, ce n'était pas le cas du groupe Calédonie Ensemble. Philippe Michel, président du groupe au Congrès, déplore certaines manœuvres politiques.
Nous ne sommes pas défenseurs de ce texte de la TGC, puisqu'on est clairement positionné contre, mais je regrette que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie ne puisse pas faire le travail pour lequel il a été élu. Son travail, c'est de voter pour ou contre les textes qui sont proposés par le gouvernement. Il y a une semaine, on n'a pas pu délibérer sur le texte de la TGC parce que les indépendantistes ont décidé de boycotter la séance. Aujourd'hui, de nouveau, nous ne pouvons pas délibérer sur le texte de la TGC parce que les groupes loyalistes LR, soutenus en la circonstance par l'Unipalika, ont décidé de nouveau de reporter l'examen de ce texte. Et rien ne nous dit que la semaine prochaine, le gouvernement sera effectivement en fonction avec des membres en charge de la fiscalité, qui de toute façon ne seront pas les mêmes que ceux qui ont porté le texte dont on doit délibérer. Donc ce que je constate à regret, c'est que par des manœuvres politiques, le Congrès ne peut pas faire ce pour quoi il a été élu, c'est-à-dire voter pour ou contre les lois de pays.
La proposition de la présidente du Congrès, Velma Falaeo, de reporter la séance au 16 janvier prochain a été approuvée par 27 élus. On notera 6 voix contre et 12 abstentions.
Revenons maintenant sur la situation de crise sanitaire inédite sur le territoire. Depuis les émeutes de mai 2024, l'offre de soins s'est drastiquement réduite en raison du départ des soignants qui ne peuvent pas être remplacés. Les structures hospitalières ont été contraintes de fermer des lits, voire des services. Le docteur Thierry de Gréland, neurologue et président de la commission médicale d'établissement du CHT, était ce matin notre invité.
Le départ de 110 infirmières du CHT, mais aussi de personnels paramédicaux dans le Nord, à la clinique, ont réduit nos capacités d'accueil des patients, puisqu'il faut une infirmière pour s'occuper de 10-12 patients. Donc le fait d'avoir moins d'infirmières a dû nous a obligés à fermer des lits. Donc actuellement, c'est presque 40 à 45% des lits d'offres de soins d'hospitalisation conventionnelle qui sont fermés sur l'ensemble du territoire, ce qui évidemment est dramatique puisque aujourd'hui, les Calédoniens, et je trouve ça très bien sûr, reviennent à la consultation, reviennent aux urgences. Alors voilà, on a des brancards, pas seulement dans les couloirs, mais aussi dans la salle d'attente qui normalement sert à asseoir les familles en attendant que le patient ressorte des urgences. Donc là, on a des brancards, jusqu'à 12 brancards on a eu ces derniers jours. C'est vrai qu'on peut voir cette situation en métropole dans certains hôpitaux, mais c'est pas ce qu'on souhaite. Et on n'avait jamais connu ça, hein, en Nouvelle-Calédonie depuis que l'hôpital existe. une telle différence entre l'offre de soins et le besoin des patients. Ça, c'est très difficile pour nous.
Cette crise, même transitoire, va durer au-delà de 2025. Il faut donc passer le cap. Et le docteur Thierry de Greylan lance un appel à la population, notamment en cette période d'épidémie de grippe.
La grippe est en train de redémarrer. On a raté la prévention vaccinale. Donc là, les gens arrivent aux urgences en phase de décompensation avec des difficultés respiratoires importantes. Et notamment les gens qui sont fragiles, âgés, diabétiques, insuffisants rénaux, etc. Donc il faut absolument poser la question aux pharmaciens de la vaccination. C'est encore possible de le faire. Il y a 3 souches virales qui circulent en ce moment et un peu de Covid aussi, comme toujours. Et là, il faut envisager rapidement la vaccination, mais surtout utiliser les gestes barrières. Faites attention quand vous avez le nez qui coule, au travail, mettez un masque, à la maison, lavez-vous les mains. Et parce qu'il faudrait qu'on limite cette épidémie qui viendrait rajouter de l'absentéisme aux soignants et puis une surcharge aux urgences. Deuxième point, c'est essayer de ne pas venir trop aux urgences. Si vous pouvez en premier aller voir votre médecin traitant. Voilà, c'est important peut-être d'essayer de décharger un peu les urgences en ce moment pour qu'on puisse se concentrer sur les malades les plus graves et pas perdre de temps sur leur prise en charge.
Le docteur Thierry de Greylan qui invite aussi à poursuivre les soins malgré les difficultés, notamment pour les malades chroniques.
C'est difficile de passer le message « venez pas aux urgences pour rien » alors que les gens souvent viennent avec des maladies graves.
Un peu trop tard.
En ce moment, c'est même le cas. On a beaucoup de malades qui arrivent trop tard. Il y a beaucoup de malades qui arrêtent les médicaments. Par exemple, les anticoagulants qui servent à fluidifier le sang, s'ils sont arrêtés, eh bien évidemment, ça provoque des thromboses. Donc ça peut être le cœur, ça peut être le cerveau, ça peut être des attaques cérébrales. Donc ça, il faut absolument poursuivre les médicaments. Il faut aller à la pharmacie, il faut refaire des ordonnances, trouver des solutions parce que on a beaucoup, beaucoup de patients aujourd'hui qui arrivent parce qu'il y a une rupture de prise en charge médicale, qu'ils ont arrêté les médicaments, qu'ils arrêtent le suivi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ils l'expliquent comment ?
Mais des moyens financiers qui sont réduits, évidemment, dans la population. Un accès aux soins qui est plus difficile parce qu'il n'y a plus de médecins, que l'infirmière ne peut pas faire les ordonnances. Et puis aussi une résignation. Les gens se concentrent sur la nourriture, sur le logement. Et puis, ils se consacrent moins d'argent à la santé, moins de temps aussi d'énergie. Donc, ça aboutit à des décompensations de maladies chroniques.
Le docteur Thierry de Greylan, neurologue et président de la commission médicale d'établissement du CHT, qui était donc ce matin notre invité. Et après cet entretien, il a rencontré la DAS pour dégager des pistes afin de pallier les difficultés rencontrées par le secteur médical. Cette crise sanitaire d'une ampleur inédite fait aussi réagir Nicolas Metzdorf. Ce matin, le député de la première circonscription explique sur les réseaux sociaux qu'il a pris contact avec Manuel Valls dans l'espoir de mobiliser la réserve sanitaire. On ne peut pas laisser la situation se dégrader autant, explique Nicolas Metzdorf, qui n'a pas manqué de remercier les soignants en place pour leur dévouement. La mobilisation se poursuit au Mont-d'Or-Sud. La mobilisation des pompiers, pardon. Si le feu est maîtrisé depuis hier, il n'est toujours pas éteint. Et la vigilance est de mise pour éviter une énième reprise, Charlotte Coulson.
1650 hectares de végétation ravagés par les flammes et les pompiers travaillent d'arrache-pied pour ne pas que le bilan s'alourdisse. Le sinistre avait débuté le 1er janvier dans la zone de la rivière Bleue de Prony, avant d'être une première fois maîtrisé dimanche dernier. Malheureusement, 3 jours plus tard, les flammes ont repris de l'ampleur et le plan hors sec de niveau 2 a de nouveau été activé ce mercredi à 20h. Aujourd'hui, les soldats du feu tentent d'éteindre les derniers points chauds. C'est le lieutenant Éric Léger qui commande les opérations de secours.
Alors, on procède de la manière suivante, avec soit l'hélicoptère bombardier d'eau, on fait des reconnaissances aériennes sur tout le secteur pour assurer qu'il n'y ait plus de fumerolles, pour traiter les dernières fumerolles. Et quand l'hélicoptère est posé, on prend les drones qui sont équipés de caméras thermiques et qui peuvent nous détecter des points de température assez élevés pour qu'on puisse aller les traiter au sol avec les moyens humains. Tous les moyens sont engagés pour bien surveiller ce feu jusqu'à au moins ce soir et le dispositif sera peut-être reconduit demain matin suivant la situation ce soir vers 17h.
18 sapeurs-pompiers aidés de 7 véhicules et d'un hélicoptère bombardier d'eau sont toujours sur place. Près de 1600 largages ont déjà été effectués depuis le 1er janvier.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS. Voici la question du jour. Faut-il durcir les sanctions contre les auteurs d'incendies, qu'ils soient volontaires ou accidentels ? Si vous pensez qu'il faut durcir les sanctions, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. C'est la réponse à la question d'hier. 95% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS sont satisfaits de l'élection d'Alcide Ponga à la présidence du gouvernement. Ils sont 5% à dire qu'ils ne sont pas satisfaits. En bref, au Mont d'Or, les inscriptions au service de cantine et de garderie pour l'année 2025 sont ouvertes. La commune précise que malgré la crise financière, les prix restent les mêmes. Pour la cantine, le tarif est toujours de 945 francs par prestation pour les enfants non boursiers. Côté garderie, matin et soir, le tarif reste de 9 900 francs par mois. Les frais d'adhésion annuels, qui ont diminué de 50% l'an dernier, seront toujours de 1 000 francs par famille. Pour inscrire les enfants, rendez-vous à la caisse des écoles du Mont d'Or du lundi au vendredi de 7h15 à 14h30. Et puis attention, c'est un jour particulier. Aujourd'hui, c'est le jour où vous devez envoyer chance au 40-20. Attention, le tirage au sort pour gagner un magnifique lot aura lieu à 14h. Hein, tout à l'heure, Thierry a un lot, je vous le disais, qu'il ne faut pas rater.
Oui, c'est un téléphone, un magnifique Samsung S24 d'une valeur de 99 000 francs. C'est offert par Connect Multimédia.
Vous envoyez chance au 40-20 dès maintenant, autant de fois que vous le voulez. Attention, le tirage au sort a lieu à 14h. Il est 11h42, une première pause avant de voir l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde dans un petit instant.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Besoin d'une clôture? Nous l'avons. La Maison de la Clôture est spécialisée dans la vente et la pose de tout type de clôture. Particuliers et professionnels, nous avons du choix et du stock. Info Facebook, la Maison de la Clôture. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main. RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
En métropole, on n'a décidément jamais autant parlé des influenceurs proférant des appels à la violence ou des slogans anti-français sur les réseaux sociaux. Plusieurs d'entre eux, d'origine franco-algérienne notamment, ont été interpellés ces derniers jours et l'un d'eux, Ali Boualem, a même été expulsé vers son pays d'origine. Mais, et c'est le signe des tensions qui règnent entre Paris et Alger, il n'a pas été accepté sur place par les autorités algériennes qui l'ont remis dans un avion en direction de Paris, à Lyon. C'est une jeune femme d'origine franco-tunisienne cette fois-ci qui a été placée en garde à vue. Sur les réseaux sociaux et notamment TikTok, elle a tenu des propos menaçants et insultants contre la France. Ces propos haineux sont très fréquents, explique Jean-Luc Goujon pour Europe 1.
C'est même sa spécialité sur le réseau TikTok où elle est très suivie. Ses vidéos face caméra, parfois filmées dans la rue et où elle revêt fréquemment le maillot de foot de l'équipe nationale algérienne. Mais évidemment, ce qui frappe, c'est le ton et les mots très violents, comme l'explique Choki Benzera, opposant au régime algérien basé à Lyon et qui a signalé ses vidéos aux autorités ces derniers jours.
Les propos qu'elle a tenus, propos antisémites, propos racistes, des appels à brûler la France. Hein. Et aussi, elle s'attaque à des personnes, ce qu'on appelle les apostats entre guillemets algériens, des gens qui ont décidé de ne plus être musulmans. Et elle, elle a appelé à les tuer, les a menacés de mort ouvertement sur un live. Donc c'est assez grave comme propos.
Ce lanceur d'alerte, justement, a été menacé ces derniers jours par l'influenceuse.
Les attaques contre ma famille, par exemple, en ayant dit que mon père était un chef terroriste, qui me mettait quasiment une cible sur le dos. Elle a mentionné mon adresse sur les réseaux, il y a vraiment des accusations contre moi d'être un sioniste, ça c'est au niveau personnel.
C'est donc pour tous ces agissements, ces provocations publiques à la haine que Sophia Benlehmann est actuellement entendue par les policiers lyonnais.
Près de 200 personnes ont participé à la commémoration de l'attentat contre l'hypercacheur de Montrouge. C'était il y a 10 ans, au lendemain du raid meurtrier des frères Kouachi dans les locaux de Charlie Hebdo. À Montrouge, le 9 janvier 2015, Amédi Coulibaly faisait irruption dans le magasin. Il a retenu en otage 25 personnes et tué 4 clients, tous juifs. Céline était une cliente du magasin. Elle était à la caisse lorsqu'Amédi Coulibaly est entré.
Je vois recharger ses armes. Et après, c'est le petit jeune qui s'est fait tuer juste devant nous, le petit Johan. Il a voulu arracher une arme pour pouvoir le tuer et ça a été fatal. Et de là, il nous a dit... N'essayez surtout pas de faire ça parce que sinon je vous tue tous. Je pense qu'il était bien conscient de ce qu'il faisait. Calme, il était très calme. Voilà, les premières questions qu'il nous a posées, c'est de savoir de quelle religion on était. Je m'étais recroquevillée au sol et j'essayais de me protéger. Moi, j'ai eu très très peur. Ça fait déjà 10 ans et je pense que je ne serai jamais guérie de ce qui s'est passé.
Un témoignage recueilli par nos confrères de CNews. La cérémonie devant l'hypercacheur a donc rassemblé près de 200 personnes. Elle s'est déroulée en présence de Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, qui était Premier ministre au moment des attentats en 2015. Deux jours après la disparition de Jean-Marie Le Pen, les réactions se multiplient pour condamner les manifestations de joie organisées par l'extrême gauche. Selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, 68% des Français sont choqués par ces rassemblements. Nicolas Sarkozy s'est exprimé pour la première fois dans le procès du financement de sa campagne en 2007. Il est accusé d'avoir conclu un pacte de corruption avec Muammar Kadhafi qui lui aurait permis de bénéficier d'argent provenance de la Libye. L'ancien président de la République s'est montré particulièrement offensif lors de l'audience. Jacques Serret pour Europe 1.
À la barre, Nicolas Sarkozy égrène ses chiffres. 10 années de calomnie, 48 heures de garde à vue, 60 heures d'interrogatoire, 10 ans d'enquête et maintenant 4 mois devant le tribunal correctionnel. L'ancien président reprend son souffle. J'affirme que vous ne trouverez jamais, jamais, non pas un euro, mais pas un seul centime libyen dans ma campagne. Un silence envahit la salle. Nicolas Sarkozy fixe les procureurs du parquet national financier. Puis il reprend d'un ton sec. J'ai été suspecté d'avoir fait financer ma campagne par Bettencourt. Il faut savoir, c'est Bettencourt ou Kadhafi? L'ex-chef de l'État hausse les épaules, agite ses bras, se tourne vers la présidente. Savez-vous ce qu'ont fait les enquêteurs? Mon patrimoine a été analysé sur 10 ans. Le patrimoine de ma femme, de mon ex-épouse, de mes enfants et même de ma pauvre mère aujourd'hui décédée. On a trouvé quoi? On a la preuve de quoi? Lance Nicolas Sarkozy. L'argent de la corruption, voilà le grand absent du procès, parce qu'il n'y a pas eu de corruption. La voix enrouée, au bord des larmes, il conclut. Ce que je dis, je le pense, et ce que je pense, je le démontrerai. Nicolas Sarkozy est loin d'avoir dit son dernier mot.
Un mot de l'actualité à l'étranger avec les incendies qui sévissent autour de Los Angeles et qui ont fait au moins 5 morts. Ils menacent désormais le quartier d'Hollywood. Les habitants doivent évacuer les lieux alors que les deux principaux incendies restent hors de contrôle. Environ 1500 bâtiments ont déjà été détruits. Plus de 100 000 habitants de la mégalopole américaine ont été forcés de fuir. Ce bilan pourrait s'alourdir puisque selon les autorités locales, la ville de Los Angeles est soumise à des vents de la force d'un ouragan combiné à des conditions de sécheresse extrêmes. C'est ce qu'a dit le maire de Los Angeles, Karen Bass. On en vient à l'actualité dans la région qui nous emmène au nord de l'Australie. Ces derniers jours, la police aux frontières a arraisonné plusieurs chalutiers étrangers, notamment indonésiens. Ils viennent pêcher illégalement les holothuries dans la zone économique exclusive de l'Australie. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Dans la dernière interception en question, un chalutier étranger a été arraisonné dans les eaux qui bordent le territoire du nord de l'Australie. Dans ces cales se trouvaient 2 tonnes d'holothuries qui ont été rejetées en mer. Le bateau et ses 7 membres d'équipage ont ensuite été escortés hors des eaux territoriales du continent. La police aux frontières a indiqué que rien que depuis début décembre, 12 bateaux de pêche étrangers ont ainsi été interceptés. Outre 500 kg de poissons, ils transportaient plus de 6 tonnes de bêches de mer. 2 des bâtiments étaient dans un état avancé de délabrement et ont été incendiés et coulés loin des côtes. Leurs équipages, dont plusieurs récidivistes, ont été arrêtés et escortés à Darwin, où ils attendent de passer en jugement. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h et bientôt 50 minutes. Dans un instant, c'est l'actualité sport. N'oubliez pas, ensuite, ce sera la première partie de la rétrospective 2024 en Nouvelle-Calédonie.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Avec la Calédonienne des Eaux, payez vos factures en toute simplicité. Des bornes de paiement sont là pour vous, proches de chez vous. Profitez d'un service pratique et rapide. Calédonienne des Eaux, l'eau qui nous unit.
Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
L'actualité sportive, et on va parler tennis. Nous sommes à 2 jours du coup d'envoi de l'Open d'Australie. Les joueurs et les joueuses qui intégreront directement le tableau principal continuent leur préparation dans la région, Léo Fichou.
Et c'est le cas notamment de Gaël Monfils qui est en Nouvelle-Zélande. Il dispute cette semaine l'ATP 250 d'Auckland et joue actuellement la demi-finale contre le jeune américain Nishesh Basavaredi. À 38 ans, c'est la 73e fois que la Monf s'invite dans le dernier carré d'un tournoi sur le circuit. Notez que le Français aura le droit à un choc au premier tour de l'Open d'Australie. Il affrontera un autre tricolore, Giovanni Mpeci-Pericard. du côté des têtes d'affiche. Le numéro 1 mondial, Yannick Sinner, sera lui opposé au Chilien Nicolas Jarry, alors qu'Alexander Zverev, le numéro 2 au classement ATP, jouera contre Lucas Pouille, le Français qui a bénéficié d'une wild card pour ce premier grand chelem de la saison.
Et puis de la voile, et avec le dernier pointage du Vendée Globe, Charny Delin conserve un air carf confortable sur Johan Richomme.
Même si Johan Richomme, sur pas près Carkea, a repris quelques milles nautiques sur Charly Delin à bord de Massif Santé Prévoyance, le leader de ce Vendée Globe possède toujours 166 milles nautiques d'avance sur son adversaire, soit 307 km. Les deux hommes continuent de remonter l'Atlantique Nord au large des côtes africaines. Ils ne vont pas tarder à naviguer entre les Canaries, archipel espagnol, et les Açores, archipel portugais. Ils devraient rallier l'arrivée au Sable d'Olonne mardi ou mercredi. Derrière eux, on retrouve toujours Sébastien Simon à bord de Groupe Dubreuil. Il est à 777 milles nautiques de la tête.
Merci beaucoup Léo Fichou.